Salut les amis.
Salut Charline.
Vous savez ce qui se passe aujourd'hui?
On va faire une émission radio satirique à 17h.
Ouais,
merci alors. Bon, non mais c'est un jour particulier là.
On va pas être de mauvaise foi à l'antenne.
Non, c'est l'anniversaire de Guillaume.
Oh, mais non, cool. Bah faut fêter ça.
Ah, c'est prévu, hein, grand déjeuner végétarien à midi.
Ah, c'est
ouais. J'aurais quand même bien aimé une petite saucisse.
Oh, t'inquiète, il y en aura. Ah. Des saucisses de tofu, c'est délicieux. Oh,
ah, et on a un cadeau?
Ah, non, faut qu'on trouve
une chemise.
Oh, il en a plein.
Une belle chemise.
Ah, oui, ça il en a pas, oui.
Voilà. Un disque de toutes les reprises de l'international.
Ah, ouais, pas mal, mais
Une semaine de vacances à Monaco.
Ah bon?
Mais oui, comme ça il va pouvoir emmerder des riches toute la journée.
Mais il va jamais supporter ça.
Mais quoi ça?
Une semaine dans un palace, il va s'ennuyer.
Ah, bah je sais pas parce qu'il a tout là.
Non, c'est pas qu'il a tout, c'est qu'il a besoin de rien.
Ouais, ouais, bah, alors on se donne la matinée pour trouver, mais alors au boulot là.
Allez, au boulot, c'est qui l'invité?
Ah ben voilà.
Mais quoi,
on choisit un invité qui va lui plaire.
Ah ben non, on va encore prendre un punk à chien.
Mais non, justement, Guillaume, il aime le débat.
Oui, oui.
Tu sais, il préférerait être à une table avec Taylor et Adam Smith plutôt qu'avec Marx et Lénine.
Oui, mais dans tous les cas, aucun des quatre est vraiment dispo. Donc,
je sais.
Mais quoi?
On va inviter Dominique Seux des Échos.
Oh, ah oui, le chroniqueur économique de la matinée.
Ça, c'est un super cadeau. Il pourrait sortir d'un grand gâteau.
Oh oui, avec un string sur la tête.
Oh,
oui.
Idée.
Non, ça va aller quand même. Bon, alors j'appelle Dominique.
Okay,
bon, bah, nous, on annule l'invité.
Okay, hein. Okay, allez, okay. C'était qui l'invité que t'es prévu?
Michel Thor.
Oh là là. Oh là là là. Elle reviendra pour ton anniversaire.
Oh non.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui fait des nœuds dans l'actualité. Et voici les trois informations qu'on va serrer très très fort pour pas qu'elles s'échappent à 18h. C'est la consécration pour François Bayrou. Il est dès l'heure. Il a son grand article dans le Canard Enchaîné, comme les autres.
Moi, j'ai testé la presse.
Oui.
Elle est pourrie.
Oui, mais ça c'est pas nouveau. C'était pas la peine de faire un test pour ça, on le sait depuis longtemps.
Carlos Ghosn vise le super bonus. Le patron de Renault-Nissan a pris un itinéraire bis de la rémunération via une fondation de droit néerlandais. Comment se justifie donc Carlos Ghosn et ses cadres?
On en a
plein les fouilles.
Merci. Une innovation est en train de bouleverser notre quotidien et la presse joue pleinement son rôle en essayant de décrypter ce phénomène. Le port de la chaussette dans les claquettes. Question, pourquoi? Pourquoi?
Puis voilà, c'est mignon une petite paire de claquettes.
Oui, voilà. Je suis accompagnée de celui qui a opté pour les espadrilles. C'est Alex Vizorek.
Le son qui avait claquette dedans, hein, on l'a mis. Et aujourd'hui, autour de la table, belle équipe évidemment, 17h20, RMC nous l'envie, RTL renierait Eric Zemmour pour lui, Europe 1 essayait de nous le débaucher, mais ça c'est pas le seul, et pourtant il est ici, et c'est vous qui le payez avec vos impôts, c'est Pablo Mira,
ça
bonjour.
Ça me plaît, salut Alex, bonjour à tous. Alors, tous les ans, on se pose les mêmes questions à son sujet, est-il surcoté? Sert-il encore à quelque chose? Coûte-t-il trop cher? Vous l'avez compris, on parlera donc de Patrick Cohen, non pardon. Pardon, du baccalauréat. On parlera du baccalauréat. Désolé, j'ai les mêmes lancements au fait pour les deux. Désolé. À tout à l'heure, Alex.
Très bon choix. 17h30, il prend de l'âge aujourd'hui. Mais rassurez-vous, il reste Benjamin Button de la maturité. C'est vous, Guillaume Meurice. Bonjour.
Bonjour, Alex. Bonjour, Charline. Bonjour à tous. Moi, je suis allé ce matin à Levallois-Perret. Où figurez-vous que Patrick Balkany a apporté son soutien à la candidate En Marche.
Je dirais qu'il est un peu impartial.
Voilà, on utilisera le concept de quasi-impartialité, cher au Levallois-Perret.
Et enfin, 17h40, celui qui s'y connaît sans doute bien en actualité, qui s'y connaît sans doute bien en musique, mais on est incapable de vous le dire, puisque l'actualisique parle très souvent ni de l'un ni de l'autre. Bonjour Thomas Védébiche.
Absolument, bonjour quand même.
De quoi
Alex,
on parle?
Eh bien aujourd'hui, je vais parler de l'énorme mouvement citoyen. Excusez-moi, parce qu'il y a encore des petites boursouflures d'émotion dans la voix, qui a été initiée ce week-end par la société civile aux élections législatives.
C'est l'émotion.
Beaucoup d'émotion.
Merci. Et voici celui qui va présider cette émission.
Ah.
Vous êtes diplômé de Sciences Po. Vous partez ensuite travailler au Maroc comme responsable d'un bureau d'ingénierie. En 94, vous entrez comme journaliste aux Échos, dont vous devenez directeur délégué de la rédaction en 2013. Vous assurez aussi la chronique économique dans la matinale de cette même antenne. Vous êtes, dites-le nous, vous êtes.
Je suis Dominique Seux.
Oh là là, oui.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes.
j'annule tout.
Bienvenue Dominique Seux.
Eh bien, merci à vous. Je suis ravi parce que je sais que tous les matins, en fait, heureusement que Charline passe après Thomas Legrand et après Dominique Seux pour dire, rétablir un peu la vérité des choses quand même, à la fois en politique et en économie.
Effectivement. Ce que je ne ferai pas avec votre ouvrage.
Moi, je vais le faire, je vais le faire.
Ah oui, moi, je m'en doute. Je vais laisser ça à Guillaume.
Je sens que son anniversaire. Je suis bien tombé le jour de l'anniversaire de Guillaume Meurice.
C'est pas fait exprès.
Déjà, qu'est-ce que ça vous fait, Dominique Seux, d'être le cadeau d'anniversaire de Guillaume Meurice?
Écoutez, je sais, vous voulez que je sorte d'un gâteau, là, vraiment, comme ça, maintenant?
On aurait aimé. Dominique Seux, vous publiez un ouvrage qui s'intitule « La France va s'en sortir ». Mm-hmm. C'est publié chez Grasset. Et vous avez donc des propositions. J'ai confié ce dossier à Alex Vizorek, qui a été formé aussi à l'école d'ingénieur commercial Solvay. Prestigieuse école où on étudie l'économie, donc il était tout indiqué pour se plonger dans votre ouvrage.
C'est le HEC belge, et j'ai fait 5 années, et j'ai eu mon diplôme, et j'ai l'impression de ne pas avoir tout compris quand même à
tout
l'économie.
Tout ça pour finir par faire des ivres virgules. Oui, là,
je me dis quand même, j'étais au cours, j'ai lu les syllabus, syllabies peut-être. Est-ce que le journaliste moyen qui traite de l'économie, et je ne parle pas des échos dont c'est la spécialité, il comprend quelque chose à l'économie dans les médias?
Vous avez raison sur un point, c'est que l'économie est devenue ces dernières années tellement complexe, mais à la fois pour des bonnes et des mauvaises raisons. Elle est devenue très complexe parce que, honnêtement, il y a 10-15 ans, il y avait quoi? Il y avait 10 pays occidentaux qui contrôlaient l'économie mondiale, en tout cas qui faisaient l'essentiel de l'économie mondiale. Il y avait 1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, on est à 3-4 milliards d'habitants qui c'est tout à fait normal, qui ont envie d'être à la table de l'économie mondiale. Et donc, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des interactions financières, monétaires, industrielles, et donc c'est beaucoup plus lourd. Donc, voilà. La seconde, alors ce qui est moins bien, c'est que cette complexité, peut-être que les journalistes économiques n'ont pas su, nous ne sommes pas capables de faire de la pédagogie. Alors, pédagogie, c'est un terme un peu... mais on n'est pas capable d'expliquer les choses simplement, et c'est vrai qu'on s'est pris quand même des grosses gamelles en 2007-2008. Alors, ce qui nous rassure quand même, nous, journalistes économiques, c'est que les journalistes politiques en 2016-2017, ils en ont pris autant. Donc, relativement, on est un peu meilleur. Donc, ça nous a rassurés depuis 6 mois. Mais au total, quand même, on a encore des efforts à faire.
Vous dites qu'un de vos gros défauts, c'est d'être un modéré. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de jeter au lion...
Très, très bonne vanne.
mais donc, maintenant, quand vous dites, oui, il y a des choses qui sont bien, oui, il y a des choses qui sont pas bien, vous avez ce qu'on peut appeler un président modéré. Il va arriver à un parlement modéré. Donc, ça commence à être l'arrivée des modérés au pouvoir. Est-ce que vous voyez ça d'un bon
oeil ? Alors, d'abord, j'ai écrit ce livre qui est sorti fin avril, mais je l'ai écrit avant même que l'hypothèse de Macron président arrive. Donc, sur le plan politique, je me dis, c'était pas écrit d'avance. Et donc, j'ai le sentiment, moi, que les esprits ou la population française en avait d'abord un ras-le-bol politique avant d'avoir un ras-le-bol économique ou un ras-le-bol social. Et ce ras-le-bol politique, il est en train d'être traité. On tournait en rond depuis 15 ans, en fait. La droite, la gauche, là, toujours les mêmes têtes, les mêmes idées, etc. Et donc là, il y a une sortie un peu par le haut.
L'abstention est à plus de 50%, comment vous pouvez dire que le problème politique est en train d'être traité? Il y a de plus en plus de gens qui se détournent de la politique.
Non, l'abstention est au 50%, à plus de 50%, mais au législatif, c'est-à-dire après...
C'est les élections les plus importantes.
C'est le 7e tour électoral. Donc les Français, ils en avaient absolument ras la casquette, je crois. À la présidentielle...
Est-ce que vous connaissez vraiment les Français, Dominique Seux?
Peut-être moins que les casquettes,
One point.
Ben voilà, j'ai perdu mon idée, c'est malin. Non, mais...
C'est un ras-le-bol politique.
À l'élection présidentielle, il y a quand même une participation très élevée. Et puis, quand même, arrêtons un peu. Non, il ne faut pas être sérieux, donc j'arrête. Arrêtons de faire parler les abstentionnistes. On ne va pas considérer que les voix des abstentionnistes qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas rendues aux urnes, sont plus importantes que les voix de ceux
mais
qui sont
exprimées. Mais ça veut dire quelque chose quand même, il faut l'analyser ce phénomène. Non, pour vous, c'est rien. C'est comme si.
Non, c'est pas.
S'il y en avait 90%, ça serait.
Mais est-ce que vous. Non, mais est-ce que vous. D'abord, il y a un tiers des abstentionnistes, c'est le sondage qui dit ça, auprès des abstentionnistes qui ne sont pas allés voter. Parce que c'était le cas à la présidentielle, parce que ils étaient empêchés, tout bonnement. Les maisons de retraite, à l'hôpital, déplacements, week-end, etc.
Donc, déjà, vous à voulez, la pêche, tout vous ça. Bon, mettons, parler, il reste deux cela. Tiers.
Bon, vous voulez les faire parler.
Il en reste
il y a
deux tiers.
Ceux, deuxième élément, il y a ceux qui considèrent que le système institutionnel, alors après on est d'accord ou pas, fait que une fois que les dés ont été lancés avec la présidentielle, il n'y a plus grand-chose à faire. Et puis il y a tous ceux, et je crois que c'est quand même la clé, qui se disent... Bon, on va essayer de donner sa chance à un président. On n'est pas forcément d'accord avec lui. Et donc, ce n'est pas un blanc-seing. Mais peut-être qu'il faut quand même lui donner sa chance parce que l'idée d'avoir soit une cohabitation et on est reparti comme les tours précédents, rassurez-vous, dans 3, 4 mois, 6 mois, 1 an, il y aura de la contestation, il y aura
deux
des
semaines.
Erreurs.
En 2 semaines.
Peut-être 2 semaines, mais peut-être 2
semaines.
C'est
la fin de 48
mais voilà.
heures.
Mais
voilà, voilà, voilà. Symptômes médiatiques, on a commencé par parler de l'économie, on a fini par parler de la politique.
Et
donc
voilà.
Il faut des livres pour récupérer ça, parce que sinon c'est très difficile d'en parler et d'étayer le propos.
C'est lié. Hein, c'est
le meilleur moyen, c'est de s'y plonger, effectivement, dans l'ouvrage de Dominique Seux, La France va s'en sortir, publié chez Grasset. On va tenter d'y revenir tout à l'heure quand même avec Alex Vizorek. Dominique Seux, vous êtes avec nous jusqu'à 18h et Guillaume Meurice est chaud bouillant, vous l'aurez compris. Marmelade sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Dominique Seux qui publie La France va s'en sortir chez Grasset et que vous pouvez entendre évidemment tous les matins dans la matinale de France Inter. Alex, un ouvrage qui propose des solutions, on est d'accord hein.
Bon, alors ça, est-ce que c'est les bonnes jeunes, on sait rien, mais en tout cas il y a des solutions. Et ça parle d'économie plus que de politique, voilà ce que je voulais dire. Et au bord de Si tu écoutes, j'annule tout, nous avons Guillaume Meurice, nous avions Pablo Mira et nous avons évidemment Thomas VDB.
Dominique Seux, ce matin, je ne sais pas si vous avez été très bien informé dans la matinale, on va... Puis les choses ont évolué.
Je vais être piégé, hein
vous savez,
séché.
Vous êtes ici un petit peu comme au G8 à la table de la connerie mondiale, c'est parti.
Il n'y a pas d'autre choix que de voter en faveur...
Le journal de presque 17h17.
Ce qu'il y a de préférable pour notre pays.
On commence par les titres.
Mediapart a épinglé Richard Ferrand pour une nouvelle affaire immobilière.
Écoutez, s'il quitte le gouvernement, Richard Ferrand pourra toujours aller sur M6 pour remplacer Stéphane Plaza.
On parlera également des législatives et sachez que les députés battus auront droit à une allocation chômage.
Ah, la cistana, qu'elle plaît.
Des brèves ?
Bien sûr, j'ai fait une OPA sur les brèves.
Et d'abord, sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du donneur de sang.
Voilà, une petite pensée pour Laurent Fabius, qui se rappelle de bons souvenirs.
Politique, ce matin, au micro de RTL, François Bayrou a insisté.
Je ne sais pas vivre sans liberté de parole. Je ne sais pas vivre avec, comme on disait toujours, expression française, avec un bœuf sur la langue.
Comme on disait toujours, avec un bœuf sur la langue, une expression très connue chez les zoophiles amateurs.
Gouvernement toujours, le Premier ministre Édouard Philippe n'exclut pas de permettre aux entreprises de négocier leur propre cause de licenciement.
Oui, et ils ont dû charger Delphine Ernotte de mener une expérience pilote à ce sujet.
Lors du dernier week-end électoral au Touquet, Brigitte Macron a donné sa première interview à l'équipe de Quotidien. Elle a assuré que son mari n'était pas parfait.
Quoi ? C'est pas, non, c'est pas possible.
Hein, si, bah, si, si, et puis elle est bien placée pour le savoir.
Voilà, je tombe des nues, mais alors, il faut absolument prévenir tous les journalistes de France, alors si c'est pas parfait.
Merci. Législative, si elle est éliminée dimanche au deuxième tour des législatives, NKM confie qu'elle devra trouver un autre emploi pour vivre.
Mais oui, mais quand elle allait à la rencontre des SDF, à l'époque, c'était pas pour l'image, c'était pour s'y préparer. Hein.
Politique encore, Henri Guénaud était hier l'invité d'Anne-Sophie Lapix et Patrick Cohen dans C'est à vous.
Évidemment, et l'équipe avait envoyé un journaliste sur place dans sa circonscription pour savoir ce que les électeurs pensaient du fait qu'il faisait vomir Henri Guénaud. On écoute ce micro-trottoir.
Il ne supporte pas que les gens le critiquent, même gentiment. Il a la gueule de l'emploi, du salaud.
C'est lui qui est à Gervais. De toute façon, c'est un fou furieux. Déjà, avec après Fillon, il a été odieux. Donc, c'est vraiment un malade.
Moi, je dirais qu'il allait se faire...
ils ont bipé, hein, ils sont en colère, et comment a réagi l'intéressé à la vue de ces images?
Moi je dirais qu'il allait se faire
Bah, c'est dommage parce que lui aussi peut aller... Mais non, on n'a rien à faire ensemble. Moi de toute façon je suis plus un homme politique, donc ils peuvent m'insulter autant qu'ils veulent.
Il en a plus rien à claquer. Ça nous promet encore de belles interventions d'Henri Guénaud.
Justice à présent. L'affaire du petit Grégory, de nouvelles arrestations viennent d'avoir lieu 32 ans après l'assassinat.
Oui, mais difficile évidemment de faire la lumière sur cette affaire, d'autant que depuis 32 ans, de l'eau évidemment a coulé sous les ponts.
Justice encore dans l'enquête pour corruption de mineurs qui vise Jean-Marc Morandini.
Reculé devant rien.
Non, c'est qu'à de le dire. Dans l'enquête pour corruption de mineurs qui vise Jean-Marc Morandini, l'animateur pourrait être sauvé pour un vice de procédure.
Et ça, c'est un peu le comble. Jean-Marc Morandini, sauvé par un vice.
Football.
Oui, football.
Hier soir, la France affrontait l'Angleterre. Oui. Et si les Bleus ont finalement gagné, ils ont tout de même à nouveau été victimes de l'arbitrage vidéo avec une carte rouge très contestable.
C'est la troisième fois que les Bleus sont victimes de la vidéo après le match contre l'Espagne en mars et l'affaire Valbuena, bien sûr.
Culture. Ouais. On a appris le décès d'Anita Pallenberg, la muse des Rolling Stones et l'ex de Keith Richards, Brian Jones et Mick Jagger.
Il ne reste donc plus qu'une seule muse assumée des Rolling Stones, c'est Jeannette Bougrabe.
Et de brèves.
Oui, de brèves. Valenciennes, il laisse son bracelet électronique à la maison avec sa prothèse de jambe.
Oh, comme c'est ballot.
C'est ce qui s'appelle prendre sa peine alternative par-dessus la jambe.
La dernière.
Et la dernière, attention, gare, il chante Allumer le feu en mettant le feu à sa maison.
Ah, grand fan de Johnny.
Et maintenant pour fredonner les portes du pénitencier.
Dominique, ce vous voilà mieux informé.
Oui. Et mais sur alors, j'ai cette appris base. Un nombre de trucs incroyables, là.
Oui, ils nous ont recalé pour la matinale pour Patrick Cohn. Ils ont pris deux autres. Bah, parce que pourtant,
bizarre,
on bosse depuis deux
On était candidat. On vous maintenait hein, pour l'édito éco sans problème. Mais bon, que voulez-vous ? Enfin bon, on verra dans un an. Hein.
Voilà.
Alors, premier sujet avec vous, Dominique Seux. Comme Fillon et Ferrand avant lui, François Bayrou est en pétard contre les médias au point de s'être fendu d'un coup de téléphone à Radio France. Les équipes d'Emmanuel Macron sont réputées aussi avoir l'appel facile pour se plaindre auprès des rédactions. Et la ministre du Travail porte plainte contre Libération pour des fuites sur le projet de, loi de Code du Travail. Alors, comment fait Macron pour s'assurer le contrôle de son image? Écoutez sa technique.
Tu m'as ridiculisé aux yeux du monde. Mais tu m'as confirmé qu'aujourd'hui, un grand homme n'est rien sans la presse. Tu vas publier en première page de ton journal un nouveau reportage sur moi. Tu y révéleras ton imposture. Et si cette fois tu ne me présentes pas sous un jour qui me convienne vraiment, tu finiras dans les pires tortures. Je t'accorde 48 heures pour l'exécution.
48 heures, c'est peu.
J'ai dit.
Fantomas.
Mais oui.
Dominique Seux, est-ce que le nouvel exécutif est en train d'instaurer un mode de relation avec la presse différent de ce que les journalistes connaissaient, au point peut-être de griffer un peu le principe d'indépendance ou éventuellement de le remettre en question, en débat?
Non, il essaye, mais ça ne durera pas. C'est-à-dire, vous savez, à partir du moment où des sondages commenceront à flotter un petit peu, où on aura besoin de reparler aux journalistes, les choses se refont naturellement. Alors, franchement, il n'y a aucune, me semble-t-il, à ce stade, aucune inquiétude à avoir. Moi, je me souviens, le premier coup de fil d'amicale pression, enfin de pression pas amicale du tout d'ailleurs, je suivais le budget, c'était Nicolas Sarkozy qui était ministre du budget, et je reçois, j'écrivais sur le budget, je fais un papier qui manifestement n'avait pas plu à Nicolas Sarkozy, et je reçois un coup de fil de son cabinet, je ne dirais pas qui me dit, Dominique, j'ai ton dossier fiscal sous les yeux.
Ah ouais.
Et il est les mesures fiscales que tu es en train de critiquer, c'est une époque vraiment dans les années 90. Hein. Les mesures que tu critiques dans ton papier, je vois que tu as X nombre d'enfants, ça changerait beaucoup de choses si on ne prenait pas cette mesure fiscale. Est-ce que tu te rends compte bien de ce que tu es en train d'écrire, etc., etc.
Ah, c'était la mesure pédagogique.
Cette personne termine en disant « Bien sûr, je plaisante, je n'ai pas de mesure fiscale. » En fait, comme il avait sorti 2-3 éléments assez précis, il l'avait manifestement.
Et le lendemain, une tête de cheval coupée dans votre lit.
J'avoue que ça fait quand même un petit effet franchement un peu désagréable. On a beau se dire « Bon... »
Surtout que c'était moi, c'était une blague.
Il n'y a rien à faire. Mais en fait... c'est un peu intriguant. Bon.
Oui, en fait, on se sent, j'imagine, un
on
peu...
On se sent un peu à nu. Enfin,
oui, et brimé dans sa liberté de...
Exactement. Enfin,
son indépendance.
Voilà,
quoi.
On n'aime pas que les choses, des choses se sachent. Heureusement, mon dossier fiscal était totalement blanc. Voilà, bon. Mais j'ai eu un moment. Donc les pressions, et après, voilà, on est passé à autre chose. Et les jours suivants, j'ai passé le message que c'était insupportable. Et on n'a plus parlé.
Il n'appelle pas directement Bernard Arnault, Nicolas Sarkozy, dans ces cas-là.
Écoutez, vous savez, la Société des journalistes des Échos, nous avons une charte d'indépendance et donc nous n'avons aucun souci de ce côté-là.
C'est pas facile pour vous, votre position sur cette antenne, parce que vous dites dans les premières pages du livre, ouais. Je me souviens d'un salarié d'Orange refusant d'installer une ligne haut débit pour Radio France à mon domicile parce qu'il savait qui j'étais. Au-delà de pression, c'est le quotidien qui vous pose problème aussi.
On avait décidé d'installer une ligne Numéris au cas où il y aurait 4 mètres de neige habitant en banlieue et que je ne puisse pas venir à l'antenne le matin. Et donc un technicien arrive, je n'étais pas là, il y avait quelqu'un de ma famille, et le technicien d'Orange, découvrant sur la boîte aux lettres mon nom, ne réagit pas tout de suite, et puis soudain il s'adresse à la personne qui avait ouvert la porte et dit « C'est pas Dominique Seux quand même !» Et il ajoute « Ils sont partout !» Et manifestement, il avait une allure, disons, on va pas dire un look, mais il avait une allure qui spontanément le faisait pas passer pour un libéral échevelé ou pour un ami de l'économie ou pour et donc alors la personne qui l'a accueilli a dit écoutez vous êtes là pour installer la ligne. Alors, le type est descendu, on l'a vu parler m'a-t-on raconté dans la voiture des techniciens d'Orange en faisant des grands signes en disant c'est scandaleux. Il est reparti et il a fallu que quelqu'un, je crois, de Radio France accompagne quelques jours après pour pouvoir installer cette ligne. Donc la renommée de France Inter est immense.
Guillaume, il a eu la fibre en 5 minutes. Hein. C'est deux différents.
C'est ce que Dominique
Seux vous racontait.
C'est
de la micro-résistance, on appelle ça. C'est Deleuze qui a théorisé.
C'est ce que vous racontez au début de La France va s'en sortir chez Grasset, ce qui prouve que vous êtes un grand optimiste, Dominique Seux. Il est 17h30, l'heure de parler de la réforme du baccalauréat voulue par Emmanuel Macron et de donner la parole à celui qui a obtenu la note de 19 à l'épreuve de philo. Ouais. Bravo, Pablo. Ouais. Même si j'ai un petit peu de mal à écrire.
Et pourtant c'est la vérité. Hein. Charline, j'ai eu 7 la première année, 3 pour mon premier redoublement, et puis un joli 9 hein, pour ma troisième terminale, donc au total 19, Charline.
Ah oui, pardon.
Il n'y a pas de mal. En tout cas, voilà, pour passer à notre sujet, vous l'aurez sans doute compris, on parle là d'un sujet qui me touche particulièrement à titre personnel dans mon parcours. L'épreuve du baccalauréat m'est très chère, Alex, surtout parce que j'ai acheté ce diplôme 3 000 € sur le dark web. Mais soyons honnêtes, le bac, c'est plus que c'était. C'est plus que c'était. Quand on dit qu'on a le bac, ça n'impressionne plus personne. Bon, sauf si vous participez aux anges de la télé-réalité, évidemment. Donc, ça n'impressionne quasiment plus personne. Et je vais vous dire, c'est même un diplôme devenu inutile. Il ne sert pas plus qu'une brosse à dents dans la salle de bain de Jean-Luc Mélenchon ou qu'un kit Sport Elec dans le KGB de Gérard Larcher. Alors qu'avant, c'était un formidable tremplin pour entrer dans la vie active, le bac. Mais voilà, aujourd'hui, ni le diplôme, ni les mentions ne garantissent quoi que ce soit. Et pire, il crée des inégalités. Parce que entre Mohamed, hein, qui a eu son bac S, mention très bien, et puis Charles, qui a obtenu la même chose, lequel des deux un employeur va-t-il privilégier ? Eh bien oui, vous avez deviné, l'employeur, il va privilégier Jean-Vincent Placé, parce qu'il sera passé devant dans la file d'attente. Jean-Vincent. Je vais vous dire ce que je pense très profondément sur ce sujet. Le problème majeur du bac, c'est qu'il est trop facile à obtenir de nos jours. Tiens, Charline, donnez-moi une question de mathématiques de bac S, n'importe laquelle, allez-y, je vous en prie.
Très bien, alors vous êtes prêts ?
Oui, allez-y,
écoutez bien.
Soit
petit f la fonction définie sur grand R par petit f de x égale x moins logarithme de x carré plus 1.
Attendez, je réfléchis. 3... Non, pardon. 7. 7, évidemment.
Attendez, parce que j'ai pas encore posé la question, là.
Oui. Okay. Allez-y.
Donc,
oui.
Résoudre dans grand R l'équation petit f de x égale x. Allez-y.
Ouais, bah, c'est-à-dire, Charline, là, vous n'avez pas choisi la plus facile quand même. Hein. Là, je sèche un peu. Je dois vous l'avouer, Charline.
Non,
je suis désolé.
Pablo, vous n'avez pas une petite idée?
Ah non, là, je suis désolé. 0.
Pas de réponse, Pablo.
C'est pas vrai.
Si, puisque petit f de x égale x équivaut à x moins logarithme x2 plus 1 égale x équivaut à logarithme x2 plus 1 égale 0 équivaut à x carré plus 1 égale petit e puissance 0 égale 1 équivaut à x égale 0.
Vous voyez, le niveau, c'est pas foufou.
Si un prof de maths à l'écoute, est-ce que c'est vrai, c'est exact?
On va
vous avez trouvé
tout ça, Dominique. Même défoncez pas ma chronique. Alors voilà, vous voyez, Dominique, je vais vous dire une chose. Franchement, faut pas hésiter à réformer ce vieux diplôme poussiéreux. Parce qu'il faut voir la vérité en face. Aujourd'hui, en France, le seul examen qui compte vraiment, c'est un dépistage après une nuit en compagnie de Nicolas Bedos. Et puis, ça fera des économies si on réforme tout ça, parce que je suis désolé, le bac, ça vous plaît, je le sais, le bac, ça coûte trop cher, 1,5 milliard d'euros par an. Ah, et vous pouvez demander à Dominique Seux, qui est expert en économie, 1,5 milliard, c'est beaucoup. Mais la solution pour faire des économies, Alex, elle est très simple, il suffit juste de regrouper des épreuves. Donc moi, pour commencer, je propose l'instauration d'une épreuve d'EPS philosophique. Voilà, ce qui peut donner des questions comme citer l'une des pensées fondamentales de Freud, comme si vous étiez dans le virage nord du Parc des Princes, ce à quoi il faudrait répondre quelque chose comme Oedipe, on t'encule. Quant aux autres épreuves qui peuvent être, disons, secondaires, annexes, je propose qu'elles soient notées via le contrôle continu et plus par un devoir en fin d'année, là, un devoir stupide. Là, on saura réellement le vrai niveau des élèves. Ceux qui ont le niveau, ils iront à la fac, et ceux qui n'ont pas niveau iront en fac de psycho. Pour conclure, allez, réforme ou pas, je souhaite quand même bon courage et puis bonne chance à tous les bacheliers pour ces épreuves. Et puis si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, Émile Zola l'a raté 2 fois, Sacha Guitry ne l'a jamais eu, André Malraux non plus, et puis si vous ne connaissez pas Zola, Guitry ou Malraux, félicitations, parce que vous ne l'aurez sans doute pas non plus.
Pablo Mira, merci, et ses solutions pour réformer la France, bien sûr, disponibles sur franceinter.fr, revisionnées en vidéo, toutes ces solutions, bien sûr. On est là pour ça, c'est le service public. Nous sommes en compagnie de Dominique Seux jusqu'à 18h, un petit feast avant de retrouver Thomas VDB, Meurice, l'équipe. I'm Not Running Away, programmation musicale Djoubaka, qui sera avec nous mercredi prochain en direct de l'Olympia.
Oh, on va faire l'Olympia.
On recevra Moussa Angaré et on va faire l'Olympia, oui. Dans le hall.
Dans le hall.
Mais
il faut bien passer par là pour
Ce sera l'Olympia. Et vous pouvez réserver vos places sur le site maisondelaradio.fr pour venir nous voir mercredi prochain. Pour l'heure, nous sommes en compagnie de Dominique Seux, qui est repassé par la radio cet après-midi que pour nous, qui publie « La France va s'en sortir » chez Grasset. La version libérale modérée, dites-vous.
Voilà, raisonnable. Non, mais c'est terrible. Les raisonnables n'ont pas bonne cote en France. Hein. Il faut être plutôt un peu extrême, à droite ou à gauche. Regardez,
il a regardé les Guillaume Meurice en me regardant.
Non, mais c'est Léon Frey, les Finkielkraut, etc., qui sont évidemment, dès qu'on est un peu raisonnable, c'est un peu ennuyeux. Mais je pense que la vérité, je pense que la réalité, quand même, est la plupart du temps un peu raisonnable.
Vous êtes aristotélicien. La vertu, c'est le juste milieu, on peut dire ça.
Mais attendez, ça c'est pour le bac. Elle a deux fois son bac.
Il n'y a pas de bac en Belgique.
On passer sur France Culture, mais ils n'y veulent pas.
Bon, c'est le moment que vous attendez, évidemment, ouais, Dominique Seux. Évidemment. C'est le moment Guillaume Meurice.
Bah écoutez, moi j'ai un petit peu la pression quand même, hein, parce que Dominique Seux est, pardon les amis, mais c'est mon humoriste préféré de la grille d'Inter. je vous le dis, on vient d'avoir un exemple à l'instant, avec le raisonnable. Moi j'ai des souvenirs de fou rire devant vos chroniques, Dominique. Enfin, votre co-auteur Pierre Gattaz y est pour beaucoup, mais je vais vous dire, je kiffe. Il faut aimer l'humour absurde, mais bon, j'aime bien.
Alors, ça fait penser que j'ai oublié de lui envoyer ma chronique de demain.
Ah, c'est pas lui qui l'écrit, d'accord. Je pensais qu'il écrivait directement. D'accord.
Il l'envoie.
Ah, faites votre petite vie avec Pierrot, qu'on salue, évidemment. Alors, pour vous rendre hommage, Dominique, aujourd'hui, je suis allé ce matin dans un paradis fiscal à Levallois-Perret, capitale du Botox et du Point Soleil, où le second tour des législatives opposera Arnaud de Courson, le candidat Les Républicains, à Cécile Calvez, la candidate de En Marche, mais soutenue par qui ? Par Patrick Balkany, mon patoche, qui n'a pas son pareil pour foutre le dawa. Et ça, non, mais c'est comme ça qu'on l'aime, hein, on le croit là, bam, il est de l'autre côté, passement de jambes, balayette, chaussettes dans les claquettes, bim, hein, c'est le Maradona des Hauts-de-Seine, el Pibe de Oro, et aussi la Casa de Oro, y los cojones de Oro también. Alors, les électeurs sont un petit peu désemparés dans tout ça, voire, on va pas se mentir, complètement paumés. Faisons un point avec un premier expert.
C'est la merde.
Vraiment ?
Oui, c'est la merde.
Définitivement ?
Oh oui, c'est la merde.
Voilà, un peu basique comme analyse, mais c'est juste, hein, c'est précis. Il faudra peut-être penser à l'embaucher pour les Échos, Dominique. Mm-hmm. Parce que souvent, il y a des articles un petit peu compliqués sur la justice sociale. Vous remplacez cotisation par charge, licenciement par restructuration, raclure de bidet par patron du CAC 40. Enfin, c'est un peu confus.
Vous êtes censé réagir ou pas?
Demandez à ce monsieur, il fera une synthèse. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Alors là, il parlait de la situation électorale de Levallois.
Je vais lui offrir un abonnement.
À ce monsieur?
Non, aux Échos.
Très bien. Oh, ça, c'est mon anniversaire, c'est beau. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les élections. D'ailleurs, poursuivons avec une électrice cette fois-ci.
Moi, ça fait 70 ans que je suis dans mon pays, j'aime mon pays et j'essaye de faire quelque chose. Je ne fais rien parce que malheureusement, on ne peut plus rien faire. C'est un cosmopolitisme et je sais que c'est pour ça que je ne veux pas parler parce que j'ai pas envie de me retrouver en prison.
Quel rapport avec le cosmopolitisme ?
Eh ben écoutez, vous chercherez sur le dictionnaire, comme ça vous verrez.
Voilà, je vais faire ça, madame, voilà, une dame qui est la parfaite synthèse d'Éric Zemmour et de Bertrand Renard, des chiffres et des lettres. On rencontre des gens vraiment étonnants à Levallois, autre exemple.
On devrait garder les communistes.
C'est vrai ?
Pour que ça change.
Mais alors à Levallois-Perret, est-ce que vous prenez pas des risques à dire ça ?
Eh ben on est la commune la plus endettée de France.
C'est votre maire peut-être qui a...
Oui, je vote pour lui. Il est comme il est, je vote pour lui.
Ah, vous votez pour lui quand même ?
Ah, absolument.
Ah bah mince, alors attendez.
C'est un bon maire.
Si je résume, vous dites qu'il faut plus de communistes, que c'est la commune la plus endettée, et vous votez Patrick Balkany. C'est ça ?
Non, mais je suis contre personne.
Ah oui, là, il y a de tout, hein, clairement, il y a de tout. Alors lui, il faut l'embaucher aussi, Dominique. Hein. Ce qu'il dit, c'est vrai que c'est
pas
plus...
beaucoup d'embauches.
Ça fait beaucoup d'embauches. À faire des frais.
Je m'inquiète si votre chronique continue encore, je ne sais pas comment ça.
Ah, mais je suis là pour vous aider aussi, Dominique, attention. Parce que non, mais c'est vrai, ce qu'il dit, c'est pas plus contradictoire que de dire qu'il faut baisser la dépense publique dans les Échos, hein, les Échos qui bénéficient tous les ans de l'aide publique à la presse écrite, hein, hashtag charité, hashtag bien ordonné. Bon, c'est contradictoire, mais c'est le bordel dans la tête des électeurs, je vous le dis. Allons voir un autre, un électeur d'En Marche cette fois-ci pour savoir où il en est dans sa tête avant le second tour.
Moi, je vais voter En Marche aussi, ouais.
Mais est-ce que c'est pas un boulet finalement d'avoir Patrick Balkany comme soutien ?
Non, je pense pas.
C'est vrai ?
Ouais, ouais.
Mais comment vous allez faire la moralisation de la vie politique avec Patrick Balkany en soutien ?
C'est une excellente question. C'est très compliqué.
Vous allez réussir quand même ?
Ouais. je vais bien dormir.
Tu vas bien nous endormir, hein, surtout comme ton copain Manu, depuis qu'il est élu, on a une de ses gueules de bois. C'est pas le président Jupiter, c'est le président Jupiler, tellement il donne mal à la tête. Donc pour ce militant, Balkany est un beau soutien. Demandons directement aux personnes qui connaissent le mieux Patrick Balkany, le personnel judiciaire, car j'ai rencontré ce matin un avocat.
Moi, comme avocat, je considère que M. Balkany est certes poursuivi, mais il est innocent, puisqu'il n'a pas encore été condamné, enfin ma connaissance dans ces sujets-là.
Vous ne respectez pas le principe de présomption de culpabilité?
Ah non, il n'y a pas de présomption de culpabilité, c'est le contraire, c'est la présomption d'innocence.
Pour Balkany, un peu quand même, non?
Non, pour Balkany non plus.
Non plus?
Non, 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 pour personne, ni pour M. Ferrand.
Je pensais qu'il y avait une exception pour Patrick Balkany.
Non, non, il n'y a pas d'exception pour Patrick Balkany, il est comme un Français comme un autre. Il faut d'abord qu'il soit condamné, pour l'instant, il ne l'est pas.
Alors, c'est l'occasion de rappeler quand même le palmarès de Patrick, hein, comme on dit, le CV à patoche. 15 mois de prison avec sursis, 200 000 francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité, 524 000 euros à rembourser à la ville de Levallois, j'en passe, c'est des meilleurs. Il est mis en examen dans tellement d'affaires qu'on a l'impression à chaque fois que c'est carrément l'examen qui est mis en Patrick Balkany. Donc en termes de morale, on est dans le cas de Bernard Arnault au conseil d'administration d'Emmaüs, n'est-ce pas monsieur l'avocat?
Alors effectivement, si la candidate de La République En Marche accepte le soutien moral de Patrick Balkany, ça pose un léger problème sur le plan de la moralisation de la vie publique, on va dire ça comme ça.
Mais attendez, parce que vous venez de dire qu'il était innocent, donc...
Oui, il est innocent, je suis bien d'accord, mais...
Mais alors, vous le soupçonnez?
Non, non, je le soupçonne absolument pas, je connais pas le dossier.
Pourquoi ça poserait un problème?
Mais il faut être réaliste, en politique, on veut être élu. J'espère que M. Balkany ne va pas lui causer plus de préjudice que de succès, on sait jamais.
On sait jamais, de toute façon, je vais vous dire, tout le monde s'en fout. Macron, en ce moment, il pourrait éclater un chaton à coup de pelle en criant « Vive Mussolini !» que tout le monde le trouverait toujours choupinou. Moi, je suis désolé, un soutien de Patrick Balkany, je trouve ça gênant. C'est aussi gênant que si Dominique Seux me disait que je faisais de bonnes analyses économiques.
Guillaume Meurice, c'est de la passion avec Dominique Seux. Je sens qu'entre vous, il y a une passion.
Non, mais c'est une excellente analyse politique. Et ça devrait l'inquiéter.
Je présente ma démission.
Bon, nous, on compte les points autour de la table. Dominique Seux, on va aborder ce deuxième sujet. Du pain béni pour votre venue aujourd'hui pour répondre à cette question, parce que les dirigeants de Renault-Nissan tentent donc de s'attribuer des bonus sans en parler aux actionnaires, et surtout de manière à ne pas se faire gauler via une fondation de droit néerlandais. On pourrait dire une sorte de caisse noire. Ça fait des années que le salaire de Carlos Ghosn indigne une grande partie de la France, et plus les Français s'indignent, plus lui, il semble en redemander.
Un jour tu as débarqué chez Renault et chez Nissan, que tu as su redresser. En fermant des usines, il y a des gens, c'est pas grave, car aujourd'hui c'est trop cool. Tu gagnes 15 millions annuels et on voudrait que tu roules en 4L. T'as plein de sous, t'as plein de sous, t'as plein de sous, t'as plein de sous, plein de blé. Y'a pas de quoi gueuler, on a bien augmenté la prime des instits. T'as plein de sous, t'as plein de sous, t'as plein de sous, t'as plein de sous.
Frédéric Fromet, qu'on retrouvera vendredi bien sûr, et qui nous aide à écrire toute cette semaine. Il est là, il est dans la place. Dominique Seux, tant qu'un patron fait gagner de l'argent à l'entreprise, est-ce qu'il y a vraiment aucune limite à l'augmentation de son salaire, de ses bonus?
C'est à la fois une question économique et morale. Sur le plan économique, les sommes dont on parle, évidemment, pour nous tous autour de cette table, elles sont hors normes, peu compréhensibles, c'est pas notre vie, c'est autre chose.
Alex, il après... parle un peu hein, quand même, ouais, je vais juste préciser ça.
Après, alors d'abord, sur le fond de l'affaire, on n'a pas pour l'instant de confirmation très très claire. Mm-hmm, hein. Il y a un document qui circule, il va falloir regarder à l'Assemblée Générale ce qui se dit demain. Hein. C'est demain que ça a lieu. Bon, voilà, précision.
Oui, ça se trouve, il est mal payé, on ne sait pas.
Précision purement formelle. Sur le plan... est-ce qu'on est moins ou plus choqué que par les rémunérations des sportifs, des acteurs, etc. C'est une vieille
marche
question.
Pas, ça marche pas. Ça,
mais si, ça marche.
Comme argument, ça marche pas. On peut pas dire il y a pire, donc ça va.
Non,
ça marche jamais.
Quelle est la limite? Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est d'abord, c'est probablement un des contribuables les plus importants de France. Ce qu'il faut regarder, c'est après impôt, quand même.
Par les Pays-Bas, quand même.
Si c'est contraire aux intérêts des actionnaires, ce sera dit à l'Assemblée Générale demain. Si c'est contraire au droit fiscal, soit en Europe, soit aux Pays-Bas, soit en France, ce sera évidemment sanctionnable. Je n'ai pas on n'a pas d'éléments pour l'instant pour le dire. Bon, donc,
est-ce que c'est pas contraire pas à la décence?
Ce qui est...
Alors moi j'ai une autre question, parce que cette question-là on la pose souvent, la décence, etc. Ouais. J'ai une autre question, c'est un incitatif pour les patrons, dit-on, tous ces bonus, etc. Mais,
on dit même incentive.
Ouais. Mais ça démoralise le travailleur, c'est pas contre-productif. Si on apprend que notre patron augmente sans arrêt, puis nous pas, etc., ben on est démoralisé, donc c'est contre-productif pour le travail. Est-ce que c'est une question qui se pose parfois, ça?
Alors, sur le plan purement... On a chacun une réponse morale sur le sujet. Sur le plan économique, qui donne son avis là-dessus? Ce sont les actionnaires, les propriétaires de l'entreprise, les salariés via les syndicats, et donc il faut écouter leur réaction, et les clients. Est-ce que les clients de Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Astovaz achètent moins ou plus de voitures? Voilà des indicateurs qu'il faut regarder. En regard de la rémunération, sur laquelle chacun a un avis. En regard, c'est une entreprise de 160 ou 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 300 000 salariés, et qui va probablement être en 2017, c'est pour une entreprise française, le numéro un mondial de l'automobile.
Après, grâce aux salariés qui fabriquent des bagnoles. Qui se lèvent le matin, qui font les 3
grâce aux salariés, grâce aux ingénieurs.
Pas grâce à Carlos Ghosn.
Mais si, grâce
il a aucun talent, ce mec.
Qui fabrique... L'analyse économique.
Comptez les points chez vous. Hein.
Non, mais après, l'analyse économique. Attends, qu'il n'ait pas d'apport physique, c'est une chose. Après, le mec peut avoir un talent de gestionnaire.
Mais qui fabrique la richesse d'une entreprise si ce n'est les salariés?
Mais il a redressé.
Ça, c'est autre chose. La création de richesse, ce n'est pas la négation du talent.
Il a redressé Nissan. Nissan, quand Nissan est allé mieux, ça a permis d'aider Renault, qui a traversé une passe très difficile après la crise financière, à aller mieux. Et il a fait un certain nombre d'investissements, de rachats, de fusions, qui se sont révélés bénéfiques.
De licenciements, donc des gens qui se sont retrouvés sur le carreau.
Bénéfiques pour l'ensemble du groupe.
Mais là, vous n'avez pas répondu à la question morale, qui est-ce que vous, ça vous choque ou pas des rémunérations?
Je
ne
sais pas m'exprimer. Moi, c'est étranger à mon monde. C'est une manière de le dire clairement, quand même.
Est-ce que vous nous dites, dans ce cas-là, la rémunération des grands patrons, on ne met pas de morale dedans? Ça peut être un choix aussi.
Eh bien, moi, je dis, c'est aux salariés, aux actionnaires... De décider. Et aux clients.
OK.
Et aux clients aussi.
OK,
et que disent les clients? Les clients continuent manifestement à acheter les voitures.
C'est le privé, voilà. Okay.
Ouais, d'accord.
Bon, nous, on est sur le service public, bien heureusement. Ouf. Et sur le service public, il y a Thomas VDB.
Absolument, et merci Dominique Seux de vous inquiéter de l'avenir de l'automobile. Moi, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la société civile. 3, 4, nous on est la société civile, on est en marche vers l'Assemblée, on est coiffeur, on est kiné, on est dentiste, on est pompier, on n'y connaît rien, mais c'est pas grave, on est en marche, on est content, on sait pas où on va, mais on y va, maintenant on va changer la loi. Voilà, et c'était important de parler de l'avenir qui nous est promis par la société civile. Je ne sais pas si vous connaissez tous ici la société civile, qui est un nouveau... c'est vraiment excellent comme truc.
Est-ce que ça joue, la société civile?
Eh bien voilà, ça se joue dans ce papier. Je vous demande d'écouter, s'il vous plaît, Dominique. Puisque, depuis ce week-end, transparaît l'horizon d'un espoir nouveau. Car enfin, l'Assemblée nationale va être composée de gens avec des métiers normaux. Des coiffeurs, des kinés, des pompiers. L'Assemblée nationale, ça va un peu devenir peut-être la rue Gamma. Rue Gamma, il y a le boucher qui vend. Il faut se rappeler de la pub peut-être. Bon, alors peut-être pas énormément, mais un petit peu quand même. Et tout ça, grâce à qui? Eh bien, grâce à La République En Marche. Grâce à Manu et Brigitte Macron, qui se sont donné pour mission de faire connaître des anonymes, de révéler des inconnus. Pour ça, Manu et Brigitte sont un peu peut-être les Jacquier Michel de la sphère politique, évidemment. Est-il besoin de le préciser? J'ai vu l'œil perplexe de Dominique Seux, Jacquier et Michel, qui évidemment n'a pas l'air de savoir de quoi on parle. On
vous racontera
tout à l'heure. Voilà, alors faut préciser quand même que les gens qui vont rejoindre l'Assemblée, c'est quand même des métiers de classe sociale supérieure, j'avoue, surtout des médecins, des avocats et même un golfeur. Il n'y a pas de métier genre... Il n'y a pas de clochard, par exemple. Voilà, c'est un métier qui n'apparaît pas. Mais imaginez quand même la chance qu'offre la société civile à tous ces citoyens lambda en marche pour les législatives, la chance de devenir... homme politique. Voilà, imagine t'es boulanger et du jour au lendemain tu deviens homme politique. Voilà, c'est un peu, voilà, t'as donné peut-être un peu l'impression d'être Actarus qui prend le contrôle de Goldorak quand même, comme ça. Alors, peut-être pas énormément non plus, mais un petit peu quand même aussi. Ça doit quand même donner une sacrée impression de devenir homme politique du jour au lendemain. Déjà, c'est le seul métier où on est homme quelque chose. À part homme grenouille peut-être, mais c'est vrai que les boulangers, c'est vrai, on n'en sait rien, mais ça tombe, ça les énerve qu'on les appelle pas homme boulanger. Ah oui, homme de la boulange. Nous, on est les hommes de la boulange. Ça marcherait pareil. En tout cas, la nouvelle terrible, terrible dans ces élections, c'est que beaucoup d'hommes et femmes politiques de la vieille école, eh bien, vont se retrouver au chômage. Cambadélis, Cécile Duflot, Philippe Etty ont déjà dégagé. Mais pour ça, j'ai une solution. Parce que par exemple, je sais qu'à Forbach, au deuxième tour, Florian Philippot se retrouve, je crois, en face d'un dentiste. Aussi fou que ça puisse paraître. D'ailleurs, ce dentiste donnera demain une conférence de presse à la salle des fêtes de Forbach. Ça devait avoir lieu à 11h. C'est décalé à midi parce qu'il y a une molaire à retirer. Bon, alors ça, c'est une petite parenthèse. Mais je propose tout simplement...
C'est une dent de sagesse, non?
Une dentiste, voilà, je ne sais pas exactement. Je propose tout simplement que si Florian Philippot perde en face du dentiste, eh bien le dentiste part à l'Assemblée, Florian récupère la gestion du cabinet dentaire. Alors il faudra juste bien penser à pas regarder Marathon Man avant d'entrer en rendez-vous avec lui. Voilà, le politicien qui sort récupère le boulot de celui qu'il remplace, c'est plus simple. Alors maintenant, j'imagine qu'il y a peut-être des auditeurs qui s'inquiètent et qui se disent, attends, ils ont quand même pas parachuté de nulle part comme ça des inconnus à l'Assemblée nationale. Ben non, hein, quand même pas. C'est pas une tombola pour devenir député quand même, puisque ces candidats En Marche se sont au préalable inscrits sur Internet, hein, avec un CV, une lettre de motivation. C'est-à-dire que si, c'est un peu une tombola, mais ils ont quand même acheté un ticket. Alors voilà, pour devenir député, on leur donne aussi une formation accélérée. Un petit peu comme le permis de conduire, on n'allait pas quand même les parachuter comme ça. Bon, moi les formations accélérées, je dis que ça vaut ce que ça vaut, parce que je suis en formation accélérée pour le permis depuis 2002, j'ai le code depuis la semaine dernière seulement. Voilà. Mais pour leur apprendre à bien devenir homme ou femme politique, eh ben on va leur apprendre toutes les techniques d'interview. On va leur dire, c'est important de toujours répondre à côté de la question, t'as compris? Oui, bah non, t'as pas compris. Alors, on leur fait visiter l'Assemblée nationale, voilà, on va pouvoir leur dire, voilà, donc ça c'est l'hémicycle, c'est un peu comme la fac, tu viens quand tu veux. Voilà, et dans 10 jours, pour les nouveaux députés, eh bien, il y a un stage pour apprendre à éviter les caméras de Yann Barthès ou survivre à une interview d'Élise Lucet. Donc attention, parce qu'on sentait que ça allait, ça, on sent que ça va aller mieux quand même en politique. Là, je sens quand même, voilà, je sens l'optimisme qui est le vôtre aussi, Dominique Seux. On pensait que c'était pour avant, mais non, cette fois-ci, c'est officiel, le changement. C'est maintenant.
Merci Thomas VDB. On va. Est-ce qu'on a le temps d'aborder ce dernier sujet? J'ai un petit doute. Ouais, allez. Ouais, parce qu'on a une question quand même. C'est parce que la jeunesse bouscule les codes, Dominique Seux. Vous savez, le lycéen porte désormais à l'école ses claquettes avec des chaussettes dedans. Et qui a eu la brillante idée de lancer cette mode? Écoutez. C'est le rappeur Anrima qui chante « Je suis en claquette chaussette », ça fait un tabac. Et du coup, le lendemain, tous les lycéens sont en claquette chaussette. Voilà. Cette question donc, que toute la France Inter se pose, Dominique Seux, est-ce que l'été, vous portez des claquettes? Si oui, avec des chaussettes à l'intérieur, est-ce que vous êtes capable de passer le pas?
Alors, si j'étais un homme politique, ou une femme politique, aussi, je serais capable immédiatement d'avoir une réponse extraordinairement brillante sur les avantages comparatifs des claquettes et des chaussettes. Mais je ne suis pas un homme et une femme politique.
Mais que porte
je ne suis qu'un
Dominique
modeste
Seux,
journaliste
l'été?
Et donc, je n'ai... qu'est-ce que je porte?
Quand il fait chaud.
Vous êtes d'une indiscrétion absolument incroyable.
On s'intéresse à l'homme, Dominique Seux.
C'est les pieds.
Qu'est-ce qui se cache derrière cette montagne d'intelligence?
Vous êtes en tongs, en claquettes.
Voilà, ce genre de choses.
Ah, voilà.
En basket ou en
tennis.
Mais la chaussette. La chaussette, oui, non.
Alors, en croqueurs. Un peu croqueurs rose.
En kickers, comme j'aurais dit peut-être.
Alors, c'est Chirac qui a popularisé dans les sandales. Au Fort de Brégançon, il avait des chaussettes dans ses sandalettes quand même.
Est-ce qu'il a réussi?
Je pense qu'il n'a rien inventé, Alrima.
Non, mais j'ai compris l'origine de l'affaire parce que vous avez la gentillesse de mettre devant moi une petite explication. En fait, pourquoi ça marche? Ça vient du basket, c'est parce que, paraît-il, les basketteurs ne sont pas très fiers de leurs pieds. Ah, et donc, ils ont mis des chaussettes. Voilà.
Et voilà.
Enfin, j'ai lu ça.
Dominique Seux, chroniqueur mode dans Annule Tout. Et, voilà. Et comédien aussi, on a une proposition à
et
vous
oui,
faire,
en fin
Dominique.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qui le découvre. Ça prolonge la chronique de Thomas VDB, puisque oui, la société civile va se retrouver à l'Assemblée. Alors évidemment... par un petit hommage à un programme qu'on aimait bien, Les Deschiens. On voulait voir comment ça se passait avec mon gars Dominique.
Francisquez, code qui n'en veut pour les gens qui n'en veut. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut, comment tu t'appelles?
Je m'appelle Dominique.
C'est ton prénom?
Bah oui, pourquoi?
C'est pas très beau. C'est pas très beau comme prénom.
Bah si, c'est bien.
Bah ça sonne pas bien. Bon, tu vois bien que les gens, ils ont pas envie de t'employer.
Je suis quand même un député en marche et un petit nouveau.
Ah, moi, c'est pas bien. T'entends ça, Yolande, franchement?
Mon gars Dominique à l'Assemblée nationale, c'est idiot possible. Hein?
Oui, je vais redresser l'économie française.
Comment tu vas faire? Tu connais rien à l'économie, là.
Bah, ça, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ce qui est écrit, c'est pas grave. Je ferai comme le gars sur Inter, j'improviserai.
Commençons par le commencement. Hein. Qu'est-ce que t'as mis dans ton cartape?
Un post-it, madame.
Bah, c'est bien, c'est un post-it. C'est bien, c'est pratique pour écrire la liste des courses.
Oui, mais toi, mon gars Dominique, tu comptes en faire quoi?
On va réécrire le code du travail.
Sur un post-it?
C'est peut-être encore trop gros. Vous avez... Ah ben voilà, en plus, je l'ai dit sans lire et c'était ça. Vous avez raison, c'est peut-être un peu trop grand.
Bon, au moins, est-ce que tu t'es renseigné un peu sur les horaires d'autocar?
Pour quoi faire?
Non, mais tu fais exprès, oui,
comment que tu veux aller à l'Assemblée nationale, bougre d'andouille?
Bah, en marche.
Il m'énerve, il m'énerve. Prends un petit péquet d'obi.
Bah, qu'il est bête, toi. Tu vas y aller en autocar, oui. Tu vas y aller en autocar.
Oui, Anton Macron, c'est monsieur des autocars.
Ah, c'est pas le monsieur des Falcons?
Bah oui, aussi,
oui. Bah oui. Mais seulement pour lui.
Bon, t'es-tu déjà au moins un peu renseigné ou que t'allais t'asseoir dans le bus?
Bah, dans l'autocar?
Oh, et tu cherches à nous faire tourner en bourrique.
Ou tu vas t'asseoir dans le palais Bourbon, du Bourbon, là, tu sais.
Bah, à gauche.
Mais réfléchis bien, mon gars Dominique.
T'es sûr de toi?
Allez, au centre.
Ah bah, elle va être belle, cette nouvelle assemblée.
Lui, dans 5 ans, il va revenir au 36-15 quand il en veut pour qu'on lui trouve un nouveau travail.
Merci Dominique, ce hommage aux Deschiens, bien sûr, de Jérôme Deschamps et bonjour à François Morel. Merci Dominique, je rappelle que La France va s'en sortir, c'est publié chez Grasset et qu'on vous retrouve demain matin aussi, comme tous les matins, bien sûr, dans la matinale de Patrick Cohen. Merci beaucoup Dominique.
Merci à vous, à demain Charlie.
À demain Dominique, on va laisser le mot de la fin à François Bayrou.
Ouais, j'ai testé la presse,
oui.
Elle est pourrie.
Oui, mais ça c'est pas nouveau, c'était pas la peine de faire un test ensemble, c'est depuis longtemps.